Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Maria.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue.
Merci.
Alors Maria, vous êtes un peu surprise de vous retrouver à l'antenne si rapidement. Alors je vais peut-être vous aider un peu à démarrer. C'est-à-dire que vous êtes une jeune femme qui avez longtemps souffert de troubles alimentaires.
Oui, tout à fait.
De boulimie, c'est ça?
Oui, majoritairement.
Moi j'ai ça sur votre fiche, mais
c'est bien ça, c'est un peu, ça a plus tendance à ressembler à ça, mais ça pouvait être boulimie ou hyperphagie ou.
Comment vous distinguez les choses? C'était justement entre la boulimie et l'hyperphagie. Quelle distinction vous faites?
Parce que quand boulimie, forcément, quand on mange des quantités assez grandes de nourriture, et puis par la suite, je compensais en faisant beaucoup du sport ou en prenant des lactatifs hautes, alors que l'hyperphagie, c'est plutôt, ça, j'ai eu le temps de l'apprendre par la suite en discutant dans des groupes de parole, tu veux voir cette distinction.
Oui.
Ou simplement, forcément, sans goinfrer de nourriture, mais sans pour autant compenser. Et c'est devenu juste ça.
Ah oui, donc quand on souffre d'hyperphagie, vous voulez dire qu'en fait, on mange en grande quantité, mais
oui,
on ne cherche pas... Dans un laps de temps, court.
Oui, voilà. Oui. Court jusqu'à ce qu'on soit physiquement, on ressent qu'on est très mal à l'aise et que ça arrive très souvent, pas qu'une fois, pas qu'occasionnellement, pas que dans des événements, quand on est seul ou de façon très récurrente.
Et oui, bien sûr. Donc vous avez souffert des deux, en fait. Vous avez eu les deux attitudes, deux types de comportements.
Oui, et je tenais vraiment à vous parler aussi, c'est parce que c'était accompagné par beaucoup ça pèse beaucoup, parce que forcément, après cela, il y a aussi pas que l'aspect physique, mais on est aussi dégoûté de soi-même.
Oui, c'est ça. C'est psychologique aussi.
Il y a une situation de honte, mais aussi de tristesse.
Oui.
Et ça empire. Donc on se dit que ça arrive peut-être parce qu'on est triste, mais pas forcément. Donc il y a tellement de choses incompréhensibles que on se dit qu'on a vécu des choses dans notre enfance et tout, quand on était en groupe et tout.
Vous avez quel âge d'ailleurs, Maria?
Alors j'aurais bientôt 27 ans.
Vous êtes jeune. Et ça, depuis quand en fait souffrez-vous comme ça de troubles du comportement alimentaire?
J'ai pu mettre des mots dessus. Il y a 5 ans.
D'accord.
Maintenant que je peux dire que c'est un trouble de comportement et que c'est pas normal et que ça, j'ai presque tous les symptômes de ça, mais en remontant un peu et en discutant, en parlant de ça, je remonte un peu vers mon enfance aussi.
Oui.
J'ai remarqué que j'avais toujours un aspect particulier avec la nourriture. Je disais tout à l'heure que même en classe, c'était en CE2 ou CE3 entre midi et deux, j'avais même un peu volé de la maison une tablette de chocolat que je cachais, qui a fondu à la cour de récré. C'était des comportements comme ça anecdotiques. Mais quand on est enfant, on ne s'en rend pas forcément compte.
Non, parce que comme vous dites, un enfant peut voler un peu de chocolat, mais il le mange tout de suite. Vous cachiez déjà. C'est curieux d'aller cacher la nourriture.
Oui, je l'ai caché un peu dans le short et comme il faisait un petit peu chaud, ça avait fondu.
Donc on s'était moqué de vous?
Non, je ne me rappelle pas en tout cas, mais il y a ça qui restait.
On sent beaucoup d'émotions quand vous nous parlez de tout ça.
Vous avez raison, parce que aussi on a aussi du mal. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie, vraiment au quotidien.
Oui.
Et en même temps, que tout le monde peut ignorer et n'arrive pas à parler de ça tout simplement.
Ça se cache, ça se dissimule. Il y a quelque chose d'un peu honteux autour de ça.
Oui, surtout que ça peut commencer de façon très anodine. Par exemple, juste des habitudes. Au lieu que je sorte soit d'université ou du stage ou autre, de me diriger bah, chez moi tranquillement. Non, il est obligé de passer par la première boulangerie, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. Et forcément, avant de rentrer chez soi, et on rentre, on est déjà mal. Oui. Donc on est mal dans sa peau jusqu'au lendemain, et rebelote. Et parfois, le quotidien peut vraiment virer de cette façon-là.
Oui, c'est-à-dire, vous disiez bien, au fond, est-ce que, après avoir absorbé de la nourriture en grande quantité, forcément, il y a un malaise, un mal-être physique, mais qui est précédé, au fond, est-ce qu'il est précédé d'un mal-être psychologique? C'est-à-dire, au fond, quoi? D'une angoisse, d'un sentiment de vide? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez, puisque vous me parlez de groupe de parole, est-ce que vous avez repéré un peu des moments peut-être qui sont particulièrement à risque pour vous, où la nourriture va venir là à la rescousse, quoi, finalement?
Il y avait certes des moments, oui, où plutôt un vide.
Oui.
Alors voilà, parfois des moments où je vivais voilà, seule, c'était une sorte de compensation, un vide. C'est comme si on comblait ce vide-là.
Oui.
Il y avait aussi des moments même où on était plus joyeux aussi, parfois.
D'accord, oui. Il peut y avoir, d'accord, c'est déjà bien ça. Ça peut être des moments où c'est plus le plaisir là, qui prédomine que la tristesse.
Oui, c'est ce qui est étonnant aussi. Parfois, ça peut être le cas. Que ce soit juste un événement, mais ce qui est un peu aussi désolant aussi, c'est que cette joie ne puisse perdurer parce que quand on pense comme ça, et puis par la suite, ça devient, devient directement très triste après.
Et vous dites, ça vous prend comme ça. Alors aujourd'hui, vous parliez des sorties d'école, des sorties de lycée. Aujourd'hui, vous avez un travail ou vous êtes alors, toujours étudiante?
Oui, je suis plutôt je suis en stage actuellement.
D'accord. Oui.
Donc je travaille donc les 35 heures par semaine et tout. Et là, ça se passe relativement bien. Après, j'ose jamais dire que je suis guérie parce que c'est quelque chose qui m'a suivie tant d'années. Donc je dis que ça peut ressurgir à tout moment, donc je ne vais pas dire que je suis totalement guérie, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment quand quand j'ai été avec une famille d'accueil. Donc
comment ça qu'est-ce qui s'est passé dans quel contexte vous vous êtes retrouvée en famille d'accueil, Maria?
Oui, c'était l'année passée.
Oui.
Pendant le deuxième le confinement. Quand il n'y avait plus, c'était le deuxième, mon stage a été annulé, tout.
Oui, oui.
Donc, c'était à ce moment-là où je me disais, je vais rester dans ma ville. Et j'ai eu cette opportunité-là de faire un job au pair, donc travailler chez une famille d'accueil.
Ah oui, d'accord. Vous n'êtes pas partie, vous étiez restée en France, mais jeune fille au pair.
Oui. D'accord. Mais en Espagne.
Ah, vous êtes partie en Espagne, d'accord.
Oui.
Et alors,
oui.
Qu'est-ce qui vous a fait du bien quand vous êtes retrouvée, la jeune fille au pair, dans cette famille d'accueil?
Ce qui était particulièrement bénéfique, c'était le fait d'être dans un cadre familial, autre que ma famille.
Oui.
Et le fait que ces personnes-là qui m'ont recrutée, c'est sur la base de ce que je suis, ce que je dégage. Enfin,
oui, oui. C'est une grande preuve de confiance parce que ils vous confiaient les enfants, leurs enfants. Donc, c'est que vous leur inspiriez confiance.
Voilà.
Et ça vous a surprise qu'on puisse vous faire confiance comme ça.
Oui, voilà, ils connaissaient cet aspect-là de la personnalité et je voulais pas décevoir non plus. Et aussi le cadre qui s'est installé, que les repas, c'est devenu un moment très convivial. Et je pense que c'est ce qui manquait aussi un peu.
Même, oui, c'est ce qui manquait dans votre famille. Comment c'était? Comment ça se passait justement? Alors, dans votre famille, vous dites les repas, par rapport à cette famille-là d'accueil en Espagne, qu'est-ce que c'était, comment le cadre familial chez vous?
C'était très... comment expliquer que les repas, c'était c'était le moment de partage. Et que pratiquement, tous les repas, on arrivait à les avoir ensemble.
Dans la famille d'accueil ou dans votre famille?
Dans la famille d'accueil.
Oui, ça, j'avais compris qu'il y avait quelque chose là de convivial, de chaleureux et de partage. Ce qui n'était pas le cas dans votre famille. Il y avait des tensions au moment des repas. C'était quoi? Comment, d'ailleurs, votre famille a été comment avec vous?
On avait des repas ensemble quand on pouvait. Après, il y a forcément des décalages de rythme de vie. Mais je sais que vous prenez aussi les repas ensemble. Mais c'est que juste c'était ma famille et ce que je faisais après les repas ou avant, eux, ils ne savaient pas. Mais pour vous dire, c'était aussi relativement équilibré. Mais c'est juste que je m'étais habituée à, par la suite, manger le repas normalement. Mais par la suite, aller me tourner vers les desserts et en abuser. C'est parti comme ça, d'un sentiment de façon très normale et naturelle, prendre le premier dessert et le deuxième et le troisième.
Au fond, depuis le début, quand on parle, alors vous appelez pour parler des troubles de comportement alimentaire, et finalement, c'est vrai qu'on parle que de nourriture. C'est vrai, je vous parle au fond de votre famille, et c'est vrai que sur votre famille, on revient au repas, mais au fond, qu'est-ce qui se passait dans votre famille? Quelle relation vous aviez? Quel enfant vous étiez? Quelle jeune fille vous étiez? Vous voyez, parce que je m'interroge forcément en vous écoutant, vous me dites que à un moment vous étiez tellement mal, vous avez cherché certainement quelque chose pour aller mieux, pour enfin mettre des mots sur ce mal-être, et vous avez rencontré des groupes de parole. Comment ça s'est fait ça d'ailleurs? Comment vous êtes venu à trouver, à vous rendre à des groupes de parole?
Donc j'ai cherché autour de moi, j'avais besoin de simplement parler.
C'est ça.
Parler, oui, et de vivre autre chose et de redécouvrir ma vie et que ma vie ne soit pas ce qui me définit uniquement.
Oui.
Mais c'est des
groupes de parole. Vous avez trouvé sur Internet? Comment c'est au sein d'un hôpital?
J'ai trouvé sur Internet et c'était une association.
Oui,
et
vous pouvez la citer peut-être, ça peut aider d'autres personnes.
Oui, donc l'association s'appelle ARTA.
ARTA.
Oui, ARTA.
Elle est présente sur toute la France, vous pensez?
Elle est présente, je ne saurais pas vous dire, mais je sais qu'elle est présente en Alsace.
D'accord.
Notamment, voilà, et en Lorraine, à Strasbourg et à Nancy.
Et alors, comment, la première fois, ça doit être intimidant, quand on fait enfin ce pas-là, d'aller dire, et on rencontre d'autres personnes, là où vous dites, souvent, ça se passe plutôt seul, ces crises de boulimie, et on se cache du regard des autres. Et là, vous rentrez, vous poussez la porte, il y a des personnes qui sont là, présentes, et comme vous, qui ont des troubles du comportement alimentaire, comment ça s'est passé, cette première séance?
Alors, au tout début, on arrive, je ne sais pas par quoi commencer. On se dit, la toute première fois, je me dissociais. C'est comme si moi, je n'en avais pas. Parce que, surtout quand on est dans un process de guérison et tout, je n'arrivais pas à en parler parce que c'était ce déni qui persistait même autour de cette table-là.
Comme si vous n'étiez pas concernée, vous écoutiez les autres finalement.
Oui, mais je savais pertinemment pourquoi j'étais là.
Bien sûr.
Parce que ça allait vraiment mal, mais du coup le fait d'écouter et de voir cette diversité, que c'est pas parce que j'étais dans un stade pas très stable de ma vie, le fait d'avoir entrepris un peu relativement de longues études de 5 ans et changé de carrière et que ça n'avait pas abouti, je me disais que c'est juste parce que j'ai eu cette instabilité-là dans ma vie, c'est ce qui a fait que ça a empiré.
Oui.
J'ai toujours jugé que, on juge toujours les choix qu'on fait.
Vous jugez beaucoup, oui, semble-t-il. Il y a cette image de vous-même, vous le disiez.
De regretter les choix à chaque fois qu'on fait. Mais si c'était à refaire, forcément, oui. Et après, je pense que aussi le fait de parler, autour de cette table, de voir cette diversité de personnes, des plus jeunes et des moins jeunes aussi.
Oui.
Il y avait aussi des hommes avec nous.
Oui.
Et pour moi, on ne sait pas que ça impactait autant.
C'était réconfortant de voir que vous n'étiez pas seule, finalement, à être dans cette souffrance, dans ce mal-être.
Oui, effectivement. Et surtout de voir aussi que les personnes avaient été là depuis longtemps et que certains, de voir qu'ils étaient partis de loin aussi. Disons, je ne vais pas dire expérimenté parce que ce n'est pas peut-être le bon mot, mais qui ont vraiment vécu plusieurs choses dans leur vie. Le fait d'entendre ça, ça me fait sentir moins seule, évidemment. Et surtout, j'ai arrêté de dire simplement par rapport à ma situation, par rapport au choix que je prenais, et que j'ai arrêté de douter, tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui me définissait, surtout.
Oui.
Parce que tout ne tournait pas autour de ça.
Vous continuez aujourd'hui cet accompagnement via les groupes de parole ?
Alors, non, je n'ai pas tenu. Non, pas du... enfin, pendant un semestre, oui. Pendant un seul semestre.
Vous avez arrêté du fait du confinement, peut-être ?
Oui, c'était un petit peu, oui, un peu avant le confinement.
Vous n'êtes pas suivi par des équipes ?
Et maintenant, d'ailleurs, parce que un petit peu, le fait que je n'allais pas régulièrement, alors que les groupes étaient de façon régulière, et je me disais que c'était toujours là. Mais dès qu'il y avait le confinement, qu'il n'y avait pas ça, j'ai senti vraiment cette différence, que ce rendez-vous qu'on avait ensemble, une fois par semaine, était primordial.
Oui, vous aviez besoin, c'est ça, de cette rencontre, de ce soutien, de cette chaleur aussi, vous trouviez humaine dans ce groupe. Il y a Laurence qui envoie un petit SMS, qui dit « Je connais ça, je fais de très grosses crises de boulimie, je mange le jour et la nuit. » Et Laurence dit « Ça concerne, il y a beaucoup d'angoisse chez elle. » Qui déclenche ces crises. Paul, tu as été voir aussi l'association
Arta,
dont parlait Maria.
Oui, je voulais parler de l'Arta, qui est l'association Réseau des thérapies des troubles alimentaires. C'est une association strasbourgeoise et qui est devenue un réseau régional qui a été fondé par des professionnels et des parents et qui a pour vocation de promouvoir, de soutenir les formes de traitement, d'aide, d'accompagnement pour l'anoxie, l'anorexie et la boulimie et qui s'adresse aux malades et aussi à l'entourage.
Merci beaucoup Maria, en tout cas, de nous avoir parlé de cette problématique. Et prenez soin de vous.
Merci, merci. Merci.
Au revoir Maria.